Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Et donc, c'était une reprise de Ma petite entreprise chantée par Isabelle Boulet. On se retrouve, chers auditeurs, pour une chronique que je vais faire sur les élections qui ont eu lieu en Russie. Donc, la réélection, entre guillemets, de Vladimir Poutine, parce que oui, Vladimir Poutine a été réélu en Russie haut la main, avec un taux de participation qui serait de 87%. Mais évidemment, comme on parle de la Russie, comme on parle de Vladimir Poutine, il y a tout un contexte autour de cette élection. Un contexte dont on avait pu traiter d'ailleurs plusieurs fois durant l'émission, et que j'introduirai la discussion parce que je laisserai un petit peu de temps pour discuter de ça avec mes chroniqueurs. Il y a la mort récente du principal détracteur de Vladimir Poutine, Alexei Navalny, dont on avait pu parler plusieurs fois, qui était emprisonné dans une prison dans le Grand Nord, qui avait été empoisonné par le passé, puis qui est là décédé récemment, juste avant les élections finalement de Vladimir Poutine. On s'inscrit également dans un contexte de guerre entre la Russie et l'Ukraine, et d'attaques de plus en plus virulentes de la part de la Russie sur l'Ukraine, où l'Ukraine est de plus en plus menacée, ainsi que son autodétermination. Bref, tout un tas de tensions, des tensions entre l'Europe et la Russie. On va parler de tout ça. Donc effectivement, Vladimir Poutine a 71 ans, qui est au pouvoir depuis déjà un quart de siècle. Il faut savoir que Poutine est au pouvoir depuis 1999. Pour la petite anecdote, il va bientôt peut-être dépasser finalement la longévité au pouvoir de Joseph Staline. Pas que je compare les deux non plus, mais voilà, les pouvoirs... Les pouvoirs autoritaires, pour faire un petit parallèle entre les différents, entre des pouvoirs autoritaires russes qui emprisonnaient leurs opposants. Et il a été donc largement réélu, bien évidemment sans surprise, hein, parce que c'est comme ce qui se passe à chaque fois où il a un vote absolu, donc à 87%, comme je le disais, d'après les résultats que nous avons eus. Il a réalisé d'ailleurs un discours public à la télévision après son élection. Il a pris la parole et il a pu déclarer que sa réélection prouve que la Russie a choisi une bonne voie. Il disait que cela permettra de consolider la société russe et que son pays sera ainsi plus fort et plus efficace. Bien évidemment, toute la campagne et tout son discours mettaient aussi en perspective la guerre russo-ukrainienne et les attaques de la Russie sur l'Ukraine. Et donc voilà, dans sa prise de parole, il justifiait finalement l'importance de voter pour lui par rapport à ce conflit-là. Il a aussi remercié donc les soldats qui se battent en Ukraine, je cite ces mots. Et il a parlé de son opposant, Alexei Navalny, et ce qui est très rare parce qu'il n'en parle presque jamais, il ne le cite jamais son nom. Et il a dit que sa mort en prison était... il a dit qu'il était mort de façon naturelle en prison. Il a même déclaré que c'était un événement triste, prononçant ainsi en public... Navalny est décédé. Oui, il est décédé. C'est toujours un événement triste que nous avons eu d'autres, et nous avons eu d'autres cas de personnes décédées en prison, a déclaré tristement Vladimir Poutine. On voit tout le cynisme, en réalité, je me permets de dire ça, mais on voit tout le cynisme de cette déclaration, en réalité. Poutine qui se dit triste de la mort d'Alexei Navalny, alors que Navalny a été empoisonné, Navalny a été emprisonné, il est mort dans une prison russe. C'est un de ses principaux et ses plus farouches opposants. Enfin, je trouve ça d'un cynisme fou. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est d'un cynisme fou, mais bon, à son habitude. Il a été donc réélu pour 6 années supplémentaires. Et il y a aussi Kiev, donc, et Vladimir Zelensky qui ont profité de cette élection pour prendre la parole et critiquer la Russie et le Kremlin. Au regard de ces résultats, donc le président ukrainien Vladimir Zelensky a déclaré que son homologue russe était un homme ivre de pouvoir qui veut régner éternellement sur la Russie. Bah, effectivement, ce contexte de grande propagande, de marché de communication sur l'élection russe n'engage rien de bon en réalité pour l'Ukraine, car il profite de cette élection, finalement, Vladimir Poutine, pour encore plus créer de l'énergie dans ses troupes et faire des prises de parole sur le contexte de cette guerre. Mais aussi, faut pas oublier de parler des nombreuses finalement personnes qui ont essayé de se révolter face à ce pouvoir hégémonique de Poutine sur la Russie et antidémocratique. Il y a de nombreux opposants à Vladimir Poutine qui ont été appelés à voter en masse à 12h pour n'importe quel autre candidat que lui. Pour montrer que l'opposition existe. Il y a des dégradations et des attaques qui ont eu lieu dans plusieurs bureaux de vote, notamment deux bureaux de vote qui ont été incendiés lors du premier jour du scrutin. Et donc, il y a eu de nombreuses interpellations, perquisitions et personnes emprisonnées face à ces révoltes et ces rébellions. Il y a eu notamment des vagues de révoltes, notamment en soutien à Navalny. On sait que la femme, je vois que Marc-Antoine hoche la tête, il aura peut-être quelque chose à nous dire là-dessus, mais je sais que la femme de Navalny déclarait reprendre le combat et la lutte de son mari, ce qui a aussi créé donc une énergie de révolte dans les oreilles et les bouches de nombreux opposants à Vladimir Poutine. Mais effectivement, comme l'habitude avec le pouvoir du Kremlin, Vladimir Poutine a donc emprisonné et opprimé donc les personnes qui se révoltaient face à son pouvoir. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser sur une courte page musicale et je vais continuer ma chronique dans une minute et je vais pouvoir laisser aussi la parole à Noémie et Marc-Antoine pour parler de ce sujet international. On se retrouve dans une minute. Bon, je vous ai dit une courte page musicale, mais bon, vous avez eu le droit à une page de pub à la place. Mais ce que je disais, voilà, aussi, c'est il y a aussi le contexte des déclarations de l'Europe sur la Russie et le contexte donc russo-ukrainien. Ça fait plusieurs mois d'ailleurs que l'Ukraine est en souffrance par rapport à ce conflit. Il y a la ville d'Addik. Tidka qui est tombée aux mains des Russes, qui était la première grande victoire de taille de la Russie. Il y a la prise de Bakhmut qui était aussi une autre victoire de la Russie, presque deux ans après l'invasion à grande échelle de la Russie sur l'Ukraine. Il y a face à ces escalades, il y a le président notamment Emmanuel Macron en France qui a affirmé plusieurs fois qu'il pourrait opérer en Russie, envoyer des troupes en Russie. Il l'a d'ailleurs réaffirmé il y a deux jours, je le cite, je réaffirme que des opérations en Ukraine contre la Russie seraient peut-être nécessaires, ce qu'a affirmé Emmanuel Macron dans un entretien ce dimanche. Et il y a eu plusieurs cyberattaques qui ont eu lieu de la part de la Russie sur la France après ces déclarations là d'Emmanuel Macron. Donc on voit que les déclarations de Vladimir Poutine s'intensifient suite à ces élections. On voit qu'il va pouvoir être au pouvoir 6 ans de plus et même il a modifié la constitution en réalité pour être au pouvoir jusqu'en 2036. L'Ukraine est en souffrance, même si je sais que la Russie dans pas mal de points recule et a de plus en plus de complications parce que les pays de l'Occident aident militairement l'Ukraine et déclarent même qu'ils pourraient les aider au-delà de ça. Donc on a tout un contexte diplomatique et géopolitique complexe qui entoure cette élection qui était aussi un enjeu de communication et de propagande guerrière. Je vais vous laisser la parole sur ce sujet qui est...
Moi puis Marc-Antoine, on n'arrête pas de se tirer la balle qui commence. Ouais. Ben moi, c'est plus... J'aimerais ça rebondir un petit peu là, justement sur la parenthèse que tu as faite sur le fait que Poutine a modifié la Constitution. Moi, je me souviens, là, j'avais fait un travail là-dessus dans le cadre d'un des cours en politique. Là. Puis, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a utilisé, dans le fond, là, comme méthode? C'est que je crois qu'il a raccourci les mandats, à ma mémoire. Il a raccourci les mandats, mais dans le fond, lui, il avait atteint le nombre maximal de mandats auquel il pouvait, il avait droit. Puis, dans le fond, il a modifié la Constitution. Excusez, je reprends.
Pas de problème.
Dans le fond, il a modifié justement le nombre de mandats auxquels un président pouvait, pouvait remplir, mais de telle sorte à ce que lui pouvait remettre son compteur à zéro, ce qui lui permettait maintenant de, comme tu disais, là, pouvoir être au pouvoir là, jusqu'en 2036. Fait que c'est vraiment ça la technique qu'il a utilisée, dans le sens que, ah ben moi, tu sais, je fais pas ça pour allonger mon mandat. Il l'a raccourci, mais il a remis son compteur à zéro. Fait que c'est comme vraiment une autre manipulation qu'a fait de la Constitution. Puis tantôt, tu évoquais là, le droit international, notamment. Tu sais, ça, c'est avant justement tous les événements là, avec l'Ukraine. Mais les amendements là, ont renforcé là, la primauté là, de la Constitution russe sur le droit international et ont interdit là, toute action là, en appel pour sous-estimer la grandeur du peuple russe ou discréditer là, les résultats des votes populaires. Là. Fait que, tu sais, ça montre vraiment là, l'intention du président là, russe là, d'imposer là, sa grandeur. Premièrement, par rapport à la communauté internationale, mais également là, au sein du pays, là, de sorte à pouvoir là, régner encore, encore un petit bout. Là. Puis je dis régner, puis je pèse mes mots là, parce que c'est vraiment clairement là, c'est la dictature.
Oui, ouais, pas dans la, pas dans les, comment on appelle ça, pas dans la, dans la, dans le, dans le mode de production. Et dans l'utilisation des moyens de production, mais dans l'appareil politique, ouais. C'est le retour des tsars en Russie, quoi.
Exact.
Et c'est ça, il y a un côté un peu tsariste, comme tu dis, un règne hégémonique sur le pouvoir. Ça, il a réduit ses mandats, mais il a augmenté le nombre de mandats possibles, donc il a presque rendu illimité, comme le disait.
Mais la problématique, c'est vraiment le fait qu'il a remis son compteur à zéro.
Ouais, c'est ça aussi, ouais.
Fait que c'est ça qui m'avait abasourdi. Puis, tu sais, dans ce temps-là, je commençais mes études en politique. Fait que je comprenais pas nécessairement vraiment tout ce qui se passait là-bas, là. Surtout que, avant moi, l'international, c'était vraiment pas ma branche, là. C'était rendu autre chose. Mais, écoute, ça m'avait sidéré.
En plus, il joue sur le contexte de la guerre. Il justifie son pouvoir par rapport à la guerre. Il justifie la guerre en partie par rapport à son pouvoir, qui veut protéger l'hégémonie russe par rapport à l'OTAN et par rapport à l'Ukraine. Donc, on voit qu'il y a une justification des événements et du contexte actuel. Marc-Antoine, on avait un petit peu parlé aussi au début de l'émission, mais justement des tensions entre l'Europe, la Russie, des prises de position des États-Unis par rapport à tout ça. Enfin, je vais te laisser la parole si tu avais des choses à dire sur ces points-là.
Ben, je vais juste rebondir sur les déclarations de Macron que tu as parlé, ouais. Qu'il fait un peu cavalier seul, si on peut dire. Il y a juste les Pays-Bas qui soutiennent ses propos. C'est qu'en même temps, il y a aussi Macron a comme eu un changement de discours un peu. Là, dernièrement, le discours est beaucoup plus axé sur l'aspect militaire.
Effectivement. Effectivement, il y a un discours beaucoup plus militaire. On parle d'envoyer des troupes sur les territoires russes. Il y a un média d'ailleurs, un média russe qui ça a été relayé. Il y a un média russe qui parlait que des troupes françaises étaient déjà sur le sol russe. Donc encore une fois, là, il va falloir faire très attention avec l'information, parce qu'on voit qu'on est sur une guerre de l'information. C'est toujours ça hein, pendant les guerres, mais la Russie aussi qui a fait des cyberattaques hein, sur le en France, c'est ce qu'aurait déclaré le gouvernement. Il y aurait plusieurs piratages, bugs informatiques à des, sur des sites de l'État. Donc on voit que c'est une guerre de l'information, une guerre des cyberattaques pour l'instant. On est sur quelque chose de subtil, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais de sous-jacent. Mais ça peut rester inquiétant en termes de diplomatie. Il y a un grand débat en ce moment en France, un très grand débat intellectuel entre des intellectuels français, entre les députés, concernant les prises de parole d'Emmanuel Macron. Il y a eu un vote d'ailleurs de motion, il y a eu une commission à l'Assemblée sur est-ce qu'on soutient finalement la prise de parole et l'envoi de troupes en Russie. Ou est-ce qu'on est contre la prise de parole de Macron et l'envoi de troupes en Russie? Ça crée un grand débat en France sur cette question-là. On voit qu'il y a des partis comme notamment la France Insoumise et le Parti communiste le Parti communiste français, des partis qui se situent, donc de Mélenchon et de Fabien Roussel, des partis qui se situent à gauche, qui eux justement étaient contre l'envoi de troupes sur le territoire russe et déclarent vouloir être non alignés et ne pas être dans la guerre avec la Russie. Le Front National, qui est un parti d'extrême droite en France et qui a plusieurs liens avec le pouvoir russe, des liens qui ont été prouvés. D'ailleurs, la campagne du Front National aurait été en partie financée par des instances russes. Eux, pareil, eux ont des prises de parole plus tendre, on va dire, à l'égard de la Russie. Ils veulent surtout pas de confrontation avec le pouvoir russe. Et au-delà d'être non alignés, ils parlent ils veulent une discussion diplomatique en règle avec Vladimir Poutine. Tandis que la droite traditionnelle et le parti d'Emmanuel Macron, eux veulent l'envoi de troupes et augmenter l'aide de la France avec l'Ukraine. Comme tu le dis, c'est pas, il y a pas un consensus international. Il y a pas mal de pays d'Europe justement qui étaient plutôt du côté des deux parties dont j'ai parlé au début, qui ne voulaient pas envoyer des troupes en Russie car ça pourrait créer un contexte diplomatique défavorable à l'Europe et à la population européenne elle-même.
Mais comme tu dis, il y a pas de consensus international. Il y a pas aussi de consensus auprès de sa population. Il y a un sondage qui est sorti que le discours un plus militaire de Macron, 76% de la population française avait une opinion défavorable.
Ben effectivement, oui, c'est ça. Il y a la grande majorité de la population française avait un opinion défavorable avec la prise de parole d'Emmanuel Macron sur une potentielle intervention finalement sur le territoire russe. On voit aussi d'ailleurs que cette prise de parole a été déclarée avant une commission parlementaire ou avant une commission au Sénat ou avec la population. Donc c'est intéressant. Effectivement, il y a eu un choc dans l'opinion publique. Ouais, c'est le mot que je cherchais. On voit un petit peu, ouais, que Macron effectivement a fait cavalier seul. Comme je dis, c'est 76% des Français qui sont en désaccord avec l'envoi potentiel de troupes. D'ailleurs, selon les sondages, c'est des chiffres qui vont plus vers les 80% même. Et je crois que c'est 82% qui étaient en désaccord avec les déclarations d'Emmanuel Macron. Donc ouais, c'est un contexte qui est intéressant. Il y a un Emmanuel Macron qui fait cavalier seul, ouais, qui est en désaccord avec l'Europe, qui est en désaccord avec sa population. Bon, ça, en désaccord avec sa population, il l'est. Et donc, on est de retour en ondes, chers auditeurs, pour une entrevue avec Isabelle Maréchal, pour nous parler de la série Des idées pour le Québec. Bonjour, Madame Maréchal.
Bonjour, bonjour. Merci beaucoup de me recevoir, Enzo, et bonjour à vos chroniqueurs.
Bonjour.
Bonjour.
Un plaisir de vous recevoir. Alors, vous êtes animatrice de la série Des idées pour le Québec, qui a été diffusée le 27 février 2024, et qui traite de politiques provenant d'ailleurs, pouvant régler des problématiques propres au Québec. Donc, c'est une série qui parle de sujets de société, de sujets sociaux. Donc, tout d'abord, cette série aborde des solutions venues d'ailleurs, afin d'améliorer certaines situations au Québec. Moi, je vais vous laisser un petit peu justement nous expliquer puis développer sur les enjeux relevés par cette série, puis aussi si vous pouviez nous en dire plus sur l'inspiration qui était liée à ce projet.
Ben oui, tout à fait. Ben, pour l'inspiration, c'est qu'on se dit souvent au Québec qu'on trouve que les choses avancent pas assez vite et que les projets, surtout en ce moment dans l'actualité, c'est beaucoup discuté, que les projets prennent du temps. Et du temps, c'est de l'argent. Puis quand on est prêt à les réaliser, on se rend compte que ça coûte finalement beaucoup plus cher que prévu parce qu'on a passé beaucoup de temps à y réfléchir. On est très bon à faire des commissions, à produire des rapports, souvent tablettés. Bref, on brette un peu, comme on dit en bon québécois, ce qui fait qu'on se disait, pourtant, quand on regarde ailleurs, quand on se compare, puis les Québécois aiment bien se comparer, hein, et nos gouvernements, y compris le gouvernement de François Legault, aiment bien aussi nous comparer, beaucoup à Ontario, mais nous, on s'est dit, et si on se comparait à ce qui se fait ailleurs, est-ce qu'il y a dans tous les sujets, les enjeux qui touchent le Québec, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont faites ailleurs qui pourraient nous servir d'inspiration? D'où ces idées pour le Québec. Puis comme vous l'avez bien dit, Enzo, c'est une série qui a pris l'antenne de Savoir Média depuis le mardi 20h30, 27 février, mais qu'on peut regarder tous les mardis, mais aussi qui est en reprise, entre autres aujourd'hui, par exemple, à 16h. Si ça vous tente, elle est rediffusée. Mais c'est surtout très intéressant aussi pour votre public de savoir que les épisodes sont en ligne, disponibles sur la plateforme de Savoir Média. Je pense que c'est peut-être plus là que votre gang allait la regarder. Cette idée-là de série, dans le fond, vient un peu répondre à toutes ces questions qu'on se pose par rapport, entre autres, on s'est intéressé aux soins à domicile, on s'intéresse à l'immigration, comment mieux intégrer les gens, la réussite scolaire. Puis là, on se dit, bon, OK, comment peut-on mieux gérer le Québec, puis faire avancer le Québec en se basant sur ses idées d'ailleurs. Dans la question des soins à domicile, par exemple, on propose l'idée qui a cours aux Pays-Bas, où ils arrivent à maintenir les personnes âgées le plus longtemps possible chez elles. Ça a été dans notre premier épisode où il y avait, entre autres, l'autrice Kim Thuy qui est venue nous en parler parce qu'elle le vit avec ses parents et ses beaux-parents qui habitent chez elle. Et elle nous rappelait à quel point, dans sa culture, c'était extrêmement inclus de pouvoir garder les aînés le plus longtemps possible chez soi. Au Québec, ça l'est moins. C'est quelque chose qu'il faut sans doute travailler puis développer. Mais entre autres, aux Pays-Bas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment axé des politiques pour que les gens restent chez eux longtemps. Fait que ça vient avec des soins à domicile et beaucoup moins des soins. Nous, ici, on est très hospitalo-centriste. Là, c'est l'hôpital, hors de l'hôpital, point de médecin, le point de salut. Alors que dans les Pays-Bas, ben, c'est complètement une autre approche. Fait que ça, c'est une idée qui est vraiment inspirante. Surtout que quand on se base sur ce que les Québécois veulent, par voie de sondage, ils le disent très clairement, 95% des gens ici veulent vieillir chez eux, puis même certains disent, j'aimerais bien même mourir chez moi, si c'était possible, puis de plus en plus, on se dit, ben pourquoi pas. La seule raison qui nous amènerait à l'hôpital, c'est si vraiment on n'est plus du tout autonome, mais sinon, dans la très grande majorité des cas, les Québécois veulent vivre le plus longtemps chez eux, puis on comprend tout à fait pourquoi. On a parlé de réussite scolaire également. Je vous parlais de l'Ontario, mais dans ce cas-ci, on a vraiment fait le tour de la planète pour se ramasser à côté de chez nous, en Ontario, où l'Ontario, on le voit, est devenue championne de la réussite scolaire en mettant en place des réformes. Une réforme qui a été finalement pas si compliquée et beaucoup moins coûteuse que ce qu'on y met, nous, comme budget. Et on se disait, ben voyons comment ça se fait. Surtout qu'il y a des Québécois, ceux que j'ai reçus à l'émission, ça c'était dans notre troisième épisode, celui du 13 mars, mais qui est disponible en ligne là, sur la plateforme de Savoir Média. Il y a entre autres le spécialiste Égide Royer et Lynn Laplante. Égide Royer, qui est le grand spécialiste du décrochage au Québec, qu'on entend régulièrement dans les médias. Lynn Laplante, qui est une spécialiste également en éducation, qui connaît bien le modèle ontarien. Et qui nous explique que depuis 20 ans, on a pris des décisions en Ontario qu'on n'a pas prises encore au Québec. Fait que c'est ce genre de choses qu'on touche. Hier, entre autres, puis c'est bien tombé parce que c'est un sujet qui est vraiment dans l'actualité. On parlait de consommation d'énergie et on parlait entre autres de l'exemple de la France où il y a une application qui s'appelle EcoWatt qui permet de connaître en temps réel sa consommation d'énergie. Les Français l'appellent la météo de l'électricité. Ça marche avec des voyants verts, jaunes, rouges, puis ça nous renseigne. Et bref, depuis, ils ont réussi à baisser de environ 14 % en un an, à peine un an, leur consommation d'énergie combinée, électricité et autres. Fait que c'est vraiment des idées qu'on se demande comment ça se fait qu'on les a pas ici. Je pourrais vous en parler pendant des heures, fait que peut-être vous avez des questions.
Ben en fait, là, c'est ça, là, vous venez tout juste d'évoquer le cas de la France là, par rapport à la consommation d'énergie, là, parce que justement, ça fait beaucoup parler là, en ce moment. Oui. Là. Mais de ce qu'on voit, là, outre Singapour, là, les choix des alternatives proposées là, au Québec semblent toutes venir, là, provenir en fait de pays là, occidentaux. Est-ce que c'est juste une coïncidence ou peut-être qu'eux sont...
C'est une très bonne question, puis on y a réfléchi parce qu'on se disait, il faut que ça soit... Quand on se compare, le principe de se comparer, c'est de se comparer... avec quelque chose qui est comparable. Hein. C'est sûr que comparer des pommes, des oranges et des bananes, comme nous a rajouté François Legault dernièrement, c'est peut-être moins porteur et productif. C'est qu'on s'est dit, mais on voulait pas non plus qu'avoir des exemples de pays comme la Finlande ou la Norvège ou la Suède qui sont toujours les modèles qu'on présente. Et qu'on a vraiment fouillé beaucoup. On a fait un gros travail de recherche pour essayer de voir. Sortons un peu des pays scandinaves puis allons voir où sont ces autres idées. Mais c'est vrai que, puis je suis contente que vous l'ayez remarqué, c'est vrai, c'est beaucoup des pays européens. Il y a pas que ça remarqué, mais c'est sûr que des pays asiatiques sont vraiment très différents de ce qu'on vit au Québec. Et même l'exemple de Singapour, où il est question, entre autres, d'une idée inspirante en matière de congestion routière. Sincèrement, puis je le dis dans l'émission qui va être diffusée le 2 avril, c'est notre 6e épisode, c'est l'acteur humoriste Emmanuel Bilodeau d'ailleurs, parce qu'à chacun des épisodes, il y a une personnalité publique qui est là. Je vous ai parlé de Kim Thuy, mais on a aussi Kim Levatlizotte, on a Émile Bilodeau, l'auteur, compositeur, interprète, on a Mickaël Guerrier qui va être là, Mélissa Mollène la semaine prochaine, Mélissa Mollène Dupuy qui est une autochtone qui a été porte-parole du mouvement No More, Idle No More au Québec, qui va nous parler de l'accès aux soins de santé, qui va nous parler aussi de l'accès à l'eau. Elle va nous parler aussi, entre autres, des communautés autochtones qui ont de la difficulté dans ces deux enjeux-là. Et dans l'épisode 6, donc, congestion routière, comment la ville de Singapour a réussi. C'est une ville-État très différente de ce que peut être Montréal, par exemple, ou Québec. Donc, déjà là, en termes de politique publique puis de budget, c'est complètement autre chose. Mais à Singapour, si vous voulez faire circuler une voiture, juste le fait de posséder une voiture, là, ça coûte 15 000 $ canadiens. Là. C'est juste le fait, là, c'est une taxe à la possession d'un véhicule. En plus, chaque kilomètre coûte de l'argent en taxe. Je veux dire, c'est taxe sur taxe. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant dans le fait de dire, ben, on n'a pas le choix de dire aux gens qui ont un véhicule, tu dois contribuer plus. Fait que c'est ça qu'on trouvait inspirant là-dedans, mais et c'est sûr qu'en Asie, le pied carré n'a pas la même valeur que chez nous. La situation, il y a tellement de gens que c'est pas la même gestion du territoire. Là. L'enjeu de la voiture au Québec, là, c'est particulier. Puis c'est difficile d'ailleurs de comparer la situation du Québec d'un point de vue territorial à d'autres, parce que nous, on a des villes principales, on a Montréal, Québec, c'est sûr, Laval, on a des Sherbrooke qui sont des grandes villes, qui deviennent des grands centres, et on a toute une grande partie de la population qui vit aussi en région où c'est difficile d'accès, là. Donc ça, il faut tenir ça en compte aussi, il faut considérer tout ça, mais je pense qu'on prend pas toute l'idée mur à mur. Et moi, je suis assez opposée au mur à mur parce que je trouve que ça ne marche jamais. Ce qui marche à Montréal ne marchera pas chez vous à Sherbrooke, puis ne marchera peut-être pas en Gaspésie non plus, probablement pas. Mais il y a des pistes de solutions. Puis l'idée, c'est de créer une espèce de... C'est de créer le mouvement de réflexion, puis de dire, il y a quand même des choses qui se sont faites ailleurs qui ont été probantes. On peut-tu en prendre un petit bout, puis l'appliquer chez nous, puis pas prendre 5 ans avant de décider? Et on s'adresse beaucoup aux décideurs qui sont des politiciens, mais pas que. Il y a aussi... Il y a des gens qui sont dans le milieu des affaires, il y a des gens dans le communautaire, il y a beaucoup de paliers, il y a le citoyen aussi. Les citoyens mieux informés font des citoyens qui votent en connaissance de cause. Donc, c'est un peu tout ça qu'on veut brasser avec cette série-là.
Pouvez-vous nous en dire davantage sur l'épisode 4 qui aborde les logements sociaux en comparaison avec la situation à Vienne en Autriche?
Oui, à Vienne, c'est vraiment fascinant parce qu'il y a plus de la moitié de la population qui a accès à un logement subventionné. Évidemment, à Vienne, encore là, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut vraiment comparer avec le Québec? Parce que l'exemple de Vienne, je vous parlais de Singapour, qui est une ville-État, puis Vienne, c'est presque un peu le même principe. À Vienne, ils sont quand même dotés d'un budget et ils ont investi aussi dans l'achat de propriétés et c'est des décisions qui ont été prises il y a très longtemps. Fait que c'est sûr que si on transpose, par exemple, à la situation des villes, des grands centres qu'on a ici, nous, au Québec, c'est comme si nous, on vient d'allumer là, sur la situation du logement social. Puis c'est comme, évidemment, les groupes communautaires, ils ont allumé depuis quand même un certain temps et ils le revendiquent depuis un petit moment. Mais avant que les politiciens se disent « Ah oui, c'est vrai, c'est un problème », avant l'inflation qu'on connaît depuis un an et demi, avant la pandémie, c'est comme si on se mettait la tête dans le sable puis on était complètement dans le déni par rapport aux besoins en logement social. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, pendant qu'on faisait semblant de ne pas s'en occuper, malgré le fait que les groupes revendiquaient l'importance d'en créer des logements sociaux en disant, vous allez voir, éventuellement, on va avoir un gros problème. Mais là, maintenant, on est face à un mur. À Vienne, ils ont investi, eux, depuis 20, 30 ans. Ils ont acheté des logements sociaux. Ils ont eu des politiques logement d'abord. Et c'est pour montrer cet exemple-là, c'est pour dire, il faut investir parce que quand on investit en logement social, c'est tout le filet social qui en bénéficie, c'est toutes les couches de la société. Et ça évite, puis vous connaissez l'expression « tout est dans tout », tout est lié, bien, c'est vrai que quand on investit en logement social, on a moins besoin d'investir après en itinérance ou même en santé, parce que une personne qui a son propre logement en prend soin, va être beaucoup plus en santé, va faire des choix beaucoup plus éclairés. En général, elle va mieux manger, elle va mieux s'habiller, ses besoins primaires vont être beaucoup mieux comblés. C'est ça qui fait que le cercle, qu'on n'embarque pas dans le cercle vicieux qui amène finalement des gens à être complètement démunis, puis souvent à la rue. Donc, c'est ce genre de Vienne est un bel exemple de cette réussite-là où on se rend compte que le logement, c'est la pierre angulaire de la société. Il faut absolument que tout humain ait un toit. C'est comme une espèce de droit. Après, nous, on l'a beaucoup mercantilisé, ce droit-là. On l'a beaucoup monétisé. Puis on voit ce que ça donne. Ça donne du monde qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on voit aux États-Unis depuis plusieurs années. C'est des gens qui sont à la rue, qui vivent dans leur voiture, qui vivent dans des conditions de salubrité qui sont épouvantables.
Effectivement, mais merci pour vos réponses, puis pour rappeler la question aussi de la question du logement. Merci de le rappeler. Effectivement, on a complètement marchandisé cette notion-là. On a capitalisé sur cette notion-là et de plus en plus. Alors que en réalité, c'est le seul paramètre en réalité dont les gens ne peuvent pas se passer.
Non, exactement. C'est comme l'alimentation. Ouais. Là, c'est notre première série. Puis en faisant cette série-là de 6 épisodes d'une heure, puis je vous le dis là, vous l'écouterez, là, c'est vraiment pas plate. On a beaucoup de plaisir, puis je pense qu'on veut démontrer aussi qu'on est capable de discuter, de faire un talk show d'affaires publiques qui est intéressant. Puis les gens nous le disent beaucoup. Hein. Bon, merci de nous rendre ça, de nous le vulgariser. Puis en même temps, ben ça nous permet de comprendre beaucoup de choses que par rapport à ce qu'on vit, mais par rapport aussi à ce qui se fait ailleurs. Je pense que c'est important de savoir ce qui se fait dans d'autres pays. Hein. On a tendance à être un petit peu attaché à notre nombril, mais c'est toujours bien de s'ouvrir sur les autres, parce qu'on voit souvent que les problèmes qu'on a ici, ben ils sont vécus ailleurs aussi. Là. On n'a pas le monopole des enfants qui vont pas bien. Je tiens à rassurer le monde quand même. Il y a aussi d'autres. Mais on commence de plus en plus à avoir le monopole des affaires qui durent trop longtemps et des dossiers pas réglés. Fait que ça, je pense qu'il faut se brasser un peu et dire, OK, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus vite sans couper les coirons, sans se trouver aussi à ne pas... Pour moi, c'est important que tout passe par l'acceptabilité sociale. Il faut que le citoyen... Moi, je mets le citoyen au cœur de toutes les décisions. Il faut absolument qu'on soit au courant. Il ne faut pas qu'on nous en passe des petites vitres, que ce soit une usine à batterie ou n'importe quoi d'autre. Ça prend l'acceptabilité sociale, sinon les projets ne passent pas. Puis Puis quand ça passe pas, ben ça crée beaucoup de frustration au sein de la population, puis ça nuit au gouvernement en place sur tous les autres sujets. Puis des fois, les gouvernements sont pas tout mauvais ou tout pourris, ils ont des fois quand même quelques bonnes idées, mais le fait de mal expliquer un projet, ça entache toutes les autres actions que le gouvernement essaye de faire. Je trouve que c'est pas dans l'intérêt de qui que ce soit que de faire ça. Meilleure gestion des communications, je pense que c'est primordial. Fait que, voilà.
Complètement d'accord avec vous.
Et dans une deuxième série, si on a le plaisir et le bonheur de le faire, ben c'est sûr qu'on abordera plein d'autres questions, comme cette question de l'acceptabilité sociale. Il y a des pays là qui ont même implanté des référendums quasiment systématiques et tout, parce que j'ai l'impression qu'une fois ou quatre ans, c'est pas assez de nous demander notre avis. Alors moi, ça me dérangerait pas qu'on me le demande plus souvent. D'ailleurs, c'est pour ça que je le fais au quotidien.
Mais vous avez raison, je suis complètement d'accord avec vous. Il nous faut de la transparence et plus de pouvoir décisionnel au niveau de la population. En tout cas, je voulais vous dire, cette entrevue touche à sa fin. Merci beaucoup pour...
Merci à vous de vous intéresser à tout ça. Puis c'est vrai, super important que je pense que les gens soient au courant aussi de tous ces enjeux, parce qu'on les vit au quotidien, qu'on le veuille ou non.
Complètement, puis surtout à travers une série, ça peut permettre aux gens de s'intéresser à ce qui se passe ailleurs, à se comparer, à chercher des solutions à travers un format qui est peut-être un peu plus ludique que celui des prises de parole qu'on a l'habitude de voir dans les autres médias.
Puis je vous le rappelle, plateforme Savoir Média, c'est vraiment chouette. Savoir Média, c'est vraiment un organisme sans but lucratif, c'est un producteur de contenu. L'idée, c'est vraiment de propulser le savoir, puis de diffuser du contenu où on apprend plein. Puis vous êtes rattaché à l'Université de Sherbrooke, fait que il y a souvent des choses aussi qui sont faites chez vous, qui sont sur cette plateforme-là. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas besoin d'abonnement, c'est gratuit en ligne, c'est gratuit à la télé. Ça nous stimule les neurones, puis en même temps, ben, ça élargit un peu notre terrain de jeu. Ça nous rend des meilleures personnes, finalement.
Effectivement.
En tout cas, on l'espère.
Ben ouais, il faut. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour vos réponses, pour votre temps. Puis on invite tous nos auditeurs à aller sur les ondes de Savoir Média. Donc l'émission, c'est tous les mardis à 20h. C'est aussi à 20h30. C'est aussi en rediffusion. Et donc, on peut trouver tout ça en rediffusion, en streaming sur Savoir Média. Donc j'invite tout le monde à aller voir cette émission. Pourquoi pas, on pourrait la regarder, nous aussi, en reparler dans l'émission prochainement. En tout cas,
avec un grand plaisir. N'importe quand. Merci
beaucoup. Merci. En tout cas, merci beaucoup, Madame Maréchal. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup, Isabelle. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, Isabelle.
Merci pareillement.
Et peut-être à bientôt. Belle journée à vous. Donc, merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés pour cette entrevue qui fut très enrichissante, très intéressante.
Oui.